À lire deux textes de la parole de Dieu. Le premier sera dans le livre de Daniel. Daniel, qui dans le livre du prophète Daniel, nous sommes d'accord, qui a vécu au 6e siècle avant Jésus. Et nous lisons les versets 25 à 27 du chapitre 9. Daniel chapitre 9, versets 25 à 27. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef, de Shiloh, ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Louin conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établit l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Mystérieux tout ça? Bon, quel rapport avec la naissance de Jésus? Et puis dans l'Épître aux Galates, nous allons dans le Nouveau Testament, Épître aux Galates au chapitre 4. Et là, nous allons juste lire les versets 4 et 5. Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Nous allons nous arrêter sur le temps qui, lui, ne s'arrête pas. Il nous file entre les mains. Nous croyons le maîtriser, le posséder, mais déjà, il n'est plus là. Nous aimerions quelquefois l'arrêter et à d'autres moments, nous en éloigner le plus rapidement possible. Notre impression du temps le détermine. Il paraît qu'à partir de 50 ans, il va deux fois plus vite. Et pourtant, les secondes et les années ne changent pas. Le temps nous dépasse totalement. Et nous nous arrêtons à cette approche que nous avons très subjectivement. Et voilà. Dieu est dans une autre dimension du temps, inimaginable pour nous. Son action l'est aussi. Et pourtant, la Bible nous ouvre un petit peu, avec des textes comme celui que nous avons lu de Daniel, chapitre 9, c'est bien peu peut-être. La Bible nous ouvre à cette dimension du temps de Dieu et nous la rend un peu compréhensible. La venue de Jésus sur terre est l'occasion de nous pencher sur le temps de Dieu. Alors, il y a différentes approches du temps dans la Bible. En français, nous n'avons qu'un mot pour en parler, le temps. Mais c'est vrai qu'il peut être composé, imparfait, même parfait, plus que parfait, présent ou futur. C'est toujours le temps, ou on n'a jamais le temps, ou tout dépend, Et voilà, on jongle avec les différents sens du mot en employant le même terme. De quoi y perdre son latin et son temps. Dans le Nouveau Testament, deux des trois termes qui sont employés nous intéressent ce matin. Le premier a donné le mot chronomètre, chronologie. Il découpe le temps en secondes, en heures, en années. C'est une conception linéaire, hier, aujourd'hui, demain. Un autre terme parle avec un autre sens, à savoir le moment décisif, avec une notion d'avant et d'après, où quelque chose de spécial arrive. C'est le temps. Il n'est pas avec une portée linéaire. C'est une autre dimension du temps qui crée la profondeur de l'instant. C'est en quelque sorte le pont de basculement décisif, avant et après. Et puis, un troisième terme, où il y a le temps qui parle d'une période indéfiniment longue. Ce temps n'a pas de borne, n'a pas de limite. Nous entrons alors dans la notion, dans la dimension de l'éternité. Le temps a une autre dimension là. Nous ne nous arrêterons pas sur ce troisième sens, parce que nous n'en avons pas le temps. Ou alors il nous faudrait certainement l'éternité. Nous allons nous arrêter sur quelques passages de la Bible où se retrouve le temps en rapport avec la venue du Messie et le but de sa venue, le but de son œuvre. D'abord, le premier sens sur lequel nous allons nous arrêter parle de la venue du Christ comme un événement qui est central. Il y a un avant et un après. Son œuvre implique qu'il y a cet événement spécial. Notre calendrier, par exemple, illustre cela dans le temps. Il y a un avant la venue de Jésus et un après. En fait, l'an zéro est le point de basculement. Mais c'est au niveau spirituel que cela est le plus lourd de conséquences. Par exemple, avec ce que Jean, l'apôtre, dit dans son introduction de son évangile, qui parle justement de ce moment crucial. La grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Au début de son ministère, c'est ce que Jésus affirme, avec ce mot spécial. Le temps est accompli. Ce n'est donc pas dans la perspective de l'évolution des événements, mais sa venue est unique et la vie ne sera plus la même après qu'avant. Une autre parole de Jésus qu'il cite, c'est face à l'incrédulité de ses frères qui voudraient le faire partir parce qu'il est gênant. Et alors Jésus leur répond, « Mon temps n'est pas encore venu. » Il parle ici de la perspective de sa mort, qui est ce point spécial. Sa venue est donc indissociable de son œuvre à la croix. Et quand tout à l'heure nous avons chanté « Attaché à la croix pour moi », nous faisions allusion à ce temps pour lequel Jésus est venu sur terre. La croix est cet événement central. Et quand sur la croix, Jésus a affirmé « Tout est accompli », eh bien Jésus parle de son œuvre unique, qui entraîne un changement profond. Il a tout fait pour que tous puissent être sauvés, sans avoir à attendre ou à assurer un complément pour le salut. Il y a un avant et un après la mort de Jésus sur la croix. Ce temps unique ne peut être malgré tout dissocié de sa résurrection et de son ascension. Le Pâques est complet. Jésus dit, lorsque le temps, c'est le même terme qu'il emploie, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Ce temps commence donc à sa venue, à Noël, et se termine à son ascension. J'aimerais tirer deux enseignements, il y en a d'autres certainement, de cette notion du temps, point central. Certaines religions ont chacune un point essentiel. Si on le supprimait, elle tomberait, elle s'écroulerait. Ce qui est central dans ce que nous affirme la Bible, c'est la croix. Le point central, c'est la mort de Jésus. C'est cela qui détermine un avant et un après. Je crois que notre situation actuelle ressemble à celle de la fin du premier siècle quand l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Et il dit que certains font des miracles l'élément central de leur foi. Pour d'autres, c'est l'intellectualisme qui est le fondement incontournable. Et l'apôtre Paul dit, nous croyons que le Seigneur a voulu que ce soit l'œuvre de Jésus, à la croix, qui est la pierre angulaire, l'élément culminant et essentiel. Quelqu'un a dit, la naissance de Christ amena Dieu aux hommes, mais il fallut la croix de Christ pour amener les hommes à Dieu. C'est essentiel d'avoir une compréhension la plus juste possible de l'œuvre de Jésus à la croix, donc, non à notre sauce, mais selon la pensée de Dieu. Un second enseignement que je tirais de cette notion du temps, c'est quand Jésus répond à ses frères qui le rejettent, eh bien, ceci n'est pas mon temps encore, il leur envoie aussi cette notion d'événement central pour eux, mais votre temps est toujours prêt. À savoir, il vous faut connaître aussi ce moment décisif qui vous fera dire qu'il y aura un avant et un après pour vous. Ce changement radical, nous dit la Bible, c'est la conversion. C'est vrai qu'on entend parler de conversion quelquefois autrement, plutôt comme d'un changement progressif. Mais ceux qui pensent cela pensent que la nouvelle naissance alors serait semblable à la naissance qui pourrait ne jamais être achevée. Si Jésus a pris l'image de la naissance pour parler du fait de devenir enfant de Dieu, c'est certainement pour affirmer qu'il s'agit d'un acte central, unique. Et cette possibilité est toujours offerte. Est-ce que vous courez toujours après cette naissance? Il est possible d'être assuré du salut maintenant, ce qui vous fera dire alors qu'il y aura un avant et un après. Dieu déclare dans l'Écriture, et c'est un passage dans la seconde épître aux Corinthiens, au temps favorable, au temps, c'est ce temps-là, un moment central, au temps favorable, j'ai répondu à ton appel et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le temps tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui nous est rappelée aujourd'hui encore. Nous pouvons être sauvés grâce à l'œuvre de Christ, point central de l'histoire. Le second sens sur lequel nous pouvons nous arrêter quelques instants parle de la venue du Messie qui était prévue et qui est, dans l'histoire, l'aboutissement des prophéties. Le temps, la notion de temps ici, est perçue dans la dimension linéaire. La venue de Jésus est affirmée à la suite des prophéties. Ce qui était prédit par les prophètes, ce qui était attendu depuis des milliers d'années, se trouve enfin accompli. L'apôtre Pierre, par exemple, dit ceci dans sa première épître. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Pendant des siècles, la venue du Messie restait en suspens. Quand est-ce qu'il va venir ? Mais pour nous, malheureusement trop souvent, nous qui avons la réponse, nous frisons l'indifférence. Cette interrogation était celle des disciples qui ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient avec Jésus et qui étaient enfin le prolongement, l'aboutissement de tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. En parlant par exemple aux disciples qui marchaient sur la route vers Emmaüs, quand Jésus était ressuscité, qui leur est apparu, Jésus leur dit « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire à tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans la gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures, donc dans tout l'Ancien Testament. Et là aussi, donc, Jésus affirme que tout ce qui était annoncé à son sujet l'était par rapport à sa venue, mais surtout par rapport à son œuvre à la croix, qui était l'aboutissement des annonces relatives au Messie. C'est l'apôtre Paul qui dit, et nous redisons ce verset dans l'épître aux Galates, « Lorsque le temps fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. » Voilà. Si les conséquences sont extraordinaires pour nous, et elle parle d'une vraie libération de ce qui nous permet de connaître la certitude du salut, de la vie éternelle avec Dieu, de l'assurance que nous sommes ses enfants. Ce verset parle surtout de la souveraineté de Dieu sur le temps. Alors nous pouvons mettre en parallèle ce verset avec ce passage du livre de Daniel. Je vous le rappelle, écrit 550 ans avant la naissance de Jésus. Une période de 70 septaines a été fixée à ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction au sein des saints. Voici, au sein, c'est au singulier, hein. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem aura été promulgué, jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 69 septaines. À la fin de ces 69 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Louin, celui qui sera Ouin, conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Plaçons cette prophétie dans l'histoire. Cette promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem a été le décret d'Artaxerxès en 445 avant Jésus. Ce décret autorisait les Juifs à retourner à Jérusalem pour reconstruire la ville. Ça, c'est le livre de Néhémie, au début du chapitre 2, qui le raconte. Plus tard, donc, un prince, le Messie, qui sera sans reproche, sans péché, viendra pour mourir afin d'expier les péchés. Il établira une alliance permanente. Après quoi, Jérusalem et le temple, est-il dit dans cette prophétie, le temple où les Juifs faisaient des sacrifices, Jérusalem et le temple seront détruits. Et cela s'est passé en 70 après Jésus-Christ. Quelle précision dans l'enchaînement de ces prédictions. Et pas seulement. En parlant du temps de Dieu qui s'accomplisse avec exactitude. Allons un peu plus loin. Ces calculs viennent d'un juif qui a reconnu en Jésus le Messie. Donc, nous appelons un juif messianique. Depuis le décret de la reconstruction de Jérusalem par Artaxerxès en 445 avant Jésus, il y aura 7 septaines, c'est-à-dire 49 ans, une septaine étant l'équivalent de 7 années. Il y aura donc 49 ans pour la reconstruction de Jérusalem, et ça s'est passé sous Néhémie et sous Esdras. Et l'histoire, en effet, raconte qu'il a fallu 49 ans pour reconstruire Jérusalem et le Temple. Après quoi, il y aura une deuxième période de 62 septaines, ça veut dire 434 ans. Ce qui nous amène donc au temps de la mort du Messie qui expiera les péchés. Voilà ce qui est révélé à Daniel en 550 avant Jésus. 49 ans plus 434 ans font 483 ans. Étant donné qu'il s'agit du calendrier lunaire juif, dont l'année est de 360 jours, 483 ans de 365 jours, vous me suivez, font tomber en l'an 31 de notre ère, au moment de la mort du Messie. Et cela a été prédit en 550 avant Jésus-Christ. Les événements très précis étaient prévus longtemps à l'avance. C'est-à-dire non seulement la chronologie, l'enchaînement des événements, mais aussi leur signification profonde, ainsi que le moment unique où cela s'est déroulé. Oui, l'histoire mondiale nous fait croire à l'emprise des dirigeants sur son évolution, mais ces prophéties attestent que c'est Dieu le maître du temps. Tout s'accomplit selon son plan et quand il le décide. Et pour ce qui est encore à venir pour nous, malgré les efforts pour calculer le temps du retour de Christ, de la fin du monde, mais la date des réalisations des prophéties passées, nous voyons qu'elle n'a pas été évidente. Ce n'est qu'après coup, qu'après les avoir vécues, qu'elles deviennent évidentes. Donc, à mon avis, il est bien vain de faire des calculs. Mais certitude pour la fin du temps, la fin des temps, là aussi, Dieu dirige les événements et les mènera à son terme, selon son plan, selon son temps. Alors, oui, cela m'a fait conclure avec ce que l'apôtre Paul dit à la fin de la première grande partie de son épître aux Romains, combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen.